Bonjour, Bruno Grangier, associé du cabinet Leaf à Shanghai, et Mohamed Materi, associé du cabinet Fromont-Briens à Paris, vous offrent un regard croisé sur la crise du coronavirus. À l'heure où le confinement vient d'être décidé, nous nous posons la question de savoir comment les enseignements de cette crise acquis en Chine peuvent servir les entrepreneurs français. Bonne écoute.
Face au coronavirus, quelle réponse apporter en France avec un éclairage en Chine avec Bruno Grangier, avocat associé de chez Leaf, et Mohamed Materi, avocat associé de chez Fromont-Briens à Paris. On va attendre que tout le monde se connecte. Il y a déjà beaucoup de monde. Merci d'être avec nous ce matin. Confiné.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bruno Grangier.
Bonjour Bruno.
Bruno Grangier depuis Shanghai.
Bonjour Bruno, bonjour Guillaume, Mohamed Materi depuis Paris.
Bonjour Mohamed.
Quelle heure il est Bruno à Shanghai là ?
17h45.
D'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous laisse la parole. Il est 10h45 et notre webinaire commence maintenant. Vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat public. Nos avocats y répondront lors d'une petite séance de questions-réponses dans les 10-15 dernières minutes de ce webinaire. Merci à tous.
Merci, Guillaume. Bonjour à tous. Effectivement, on est rentré en Chine dans la crise du coronavirus fin janvier. Et on commence à peine à en sortir. Et puis vous êtes, vous, en France, au début de cette crise. Et on s'est posé la question de savoir comment l'expérience chinoise pouvait vous servir. Et on a échangé avec Mohamed pour pouvoir préparer ce webinaire et vous proposer quelques situations et notamment trois propositions. D'abord d'étudier les grandes étapes de la crise et comment elles ont... comment ça pourrait vous servir en France, comment les grandes étapes de la crise en Chine pourraient vous servir et vous permettre d'anticiper ce qui va se passer en France. Ensuite, quelles ont été les mesures de protection des salariés qui ont été mises en œuvre et comment ça s'est développé, comment ça a évolué. Et ensuite, quelles ont été les mesures de continuité du business qui ont été mises en œuvre.
Oui, effectivement, merci Bruno. L'idée de cet échange qu'on va continuer en live avec vous tous, c'est effectivement d'avoir votre retour d'expérience en Chine, parce qu'effectivement vous êtes, vous allez dire en fin de confinement, nous on vient de commencer de manière un peu brutale, que ce soit pour les Français et pour les entreprises aussi, et effectivement il a fallu mettre en place très rapidement des mesures pour pallier à cette crise, et nous sommes d'ailleurs encore en attente, on y reviendra un peu plus tout à l'heure, d'évolutions législatives et de nouvelles mesures pour pallier à cette période difficile.
Oui. Alors, d'abord, si vous voulez bien, on peut commencer peut-être par faire un petit peu de... reprendre un peu les grandes étapes. Et donc, c'est vrai que le coronavirus a commencé en Chine fin janvier, au moment du lancement des grandes migrations pour le nouvel an chinois. Et on a eu ce démarrage de crise très très rapidement, mais dans une période où les gens étaient en vacances. Donc on a pu s'organiser, et on va dire que jusqu'à peu près au 10 février, l'activité est restée morte, complètement morte, avec une demande du gouvernement des sociétés de ne pas reprendre le travail, donc des congés forcés. Le gouvernement a mis les entreprises dans l'obligation de payer leurs salariés pour des congés supplémentaires. Et ensuite, on voit aujourd'hui une étape donc, du 10 février à mi-mars, qui est la reprise progressive du travail. Donc c'est quand même une période assez longue. Et aujourd'hui, à mi-mars, on est, on va dire, dans une situation où la plupart des bureaux et des sociétés ont repris le travail, sauf les hôtels, sauf certains business, notamment... les restaurants ont repris plus tardivement il y a une semaine. Et on a eu quand même une grosse période de fermeture administrative de certaines entreprises.
Donc, c'est vrai que c'est plutôt l'inverse pour nous. on sort, en tout cas en France, d'une période un peu compliquée pour les entreprises, qui était en fin d'année la grève des transports, et où il a fallu là aussi mettre en place des dispositifs pour pouvoir maintenir l'activité à minima de manière dégradée. Rien par rapport à la situation qu'on est en train de connaître nous depuis quelques semaines, parce que effectivement ça a commencé crescendo et pas mal d'entreprises ont pris la mesure de la situation en mettant en place notamment un plan de continuité d'activité ou en les mettant à jour et en essayant de faire tourner l'effectif via le télétravail. Peut-être qu'on l'évoquera un peu de manière un peu plus longue en quelques minutes. Et effectivement, même en s'étant préparé quelques semaines auparavant, le choc a été brutal la semaine dernière avec ce confinement progressif et très rapide qui nous amène aujourd'hui à commencer un réel confinement comme vous avez pu connaître, vous, en Chine.
Alors, le confinement en Chine a été appliqué dans certaines villes, et notamment la ville de Wuhan, dans beaucoup de villes aussi autour de Shanghai, des règles de confinement très strictes ont été imposées par les autorités administratives. Donc le confinement en Chine, ça veut dire rester chez soi, ne pas avoir le droit de sortir du tout de chez soi, sortir 2 heures tous les 2 jours pour s'approvisionner en nourriture. Et à Wuhan, on est allé jusqu'à mettre en place des confinements très très stricts où les gens étaient approvisionnés par les autorités. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vécu à Shanghai. Par contre, aujourd'hui, on vit des confinements des nouveaux arrivants. Et les autorités demandent des périodes de confinement très strictes aux personnes qui reviennent ou aux personnes qui sont malades ou supposées malades. On leur demande de rester au moins maintenant 2 semaines en isolement complet avec, pareil, un approvisionnement pour ce qui est de la nourriture.
Alors à Paris et en France plus largement, la situation s'est accélérée, c'est-à-dire qu'un peu avant le confinement total, alors total pas dans la version que vous avez pu connaître en Chine, parce qu'en France les gens peuvent sortir avec cette fameuse attestation pour faire du jogging, pour faire les courses, et sûrement que ce système va se durcir, mais en tout cas les entreprises étaient un peu préparées en amont en mettant en place des équipes scindées avec des gens qui étaient en télétravail pendant une semaine ou deux et qui ne croisaient pas l'autre équipe. Et tout ça a été mis en place dans le cadre des plans de continuité d'activité. Et aujourd'hui, ça s'accélère. Ça s'accélère. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, le télétravail en France n'était pas une obligation. On ne pouvait pas l'imposer aux salariés. On était dans un cadre consensuel et c'était un télétravail plutôt massif d'une à deux journées par semaine. Sauf que là, en France, depuis que la situation a tourné au confinement, on a été obligé d'activer un article du Code du travail très récent, hein, qui date des ordonnances Macron, dans ce type de situation un peu particulière de pandémie, le télétravail pouvait être imposé aux salariés. Donc pour tous les salariés dont le poste de travail permet un télétravail, quelques jours, leur a été imposé de travailler à domicile. Travailler à domicile, dans ce cadre, avec le volume horaire habituel, malheureusement, ça crée quelques situations parfois compliquées d'isolement, hein, faut le dire, parce que et peut-être qu'on pourra avoir votre retour d'expérience, parce que nous, effectivement, en France, le confinement vient de commencer, et avoir un télétravail de 2 semaines, voire beaucoup plus, H24 à la maison, ça crée des situations d'isolement. Plusieurs entreprises ont mis en place des hotlines de soutien psychologique. Et là, il faut le rappeler, il faut avoir des gestes, j'allais dire, des bonnes pratiques pour que ce télétravail soit efficace et n'impacte pas la santé psychologique des salariés. C'est-à-dire qu'il faut établir des rituels, mettre en place une routine, des réunions d'équipe via toutes les possibilités qu'on peut avoir via Teams, via WhatsApp, via tous ces supports qui permettent de créer un bureau virtuel et effectivement structurer ce télétravail, structurer une activité un peu quotidienne. en bloquant des créneaux dans les agendas, en limitant l'interaction pendant les heures de travail, et aussi en prenant soin de soi, j'allais dire, en prenant des pauses, comme on le faisait au bureau, des pauses pour déjeuner, des pauses pour effectivement s'aérer ou prendre un café, alors s'aérer plutôt à la fenêtre et pas sortir dans la rue, hein, je le rappelais, et un peu focuser sur le rôle des managers qui doivent faire confiance à leurs équipes, maintenir le lien, clarifier le cadre, se fixer des objectifs pour que ce confinement ne puisse pas atteindre à l'économie et qu'on puisse, dans les entreprises, continuer à fonctionner au moins dans une version dégradée.
Oui. Alors ce qu'on a pu observer, nous, dans le cadre du télétravail, d'abord, c'est... D'abord, le télétravail s'est imposé de lui-même en Chine parce que, effectivement, c'était une recommandation du gouvernement. C'est vrai que les Chinois étaient plutôt très très prompts à adopter ce mode de travail qui finalement est assez en ligne avec leur pratique sociale. La population chinoise étant extrêmement connectée. La question, effectivement, des questions juridiques qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est d'abord comment ce télétravail est déjà réglementé au sein de l'entreprise, puisque on a des gens qui passent de leur poste de travail vers des postes personnels souvent. Donc ça va poser des questions de bonnes pratiques, ça va poser des questions de cybersécurité, mais ça va aussi poser des questions d'accès aux data des salariés qui utilisent plus leur poste, mais leur poste en bring your own device mode. Donc je ne sais pas comment la France appréhende ça.
Alors effectivement, certains secteurs ont déjà appréhendé la mesure parce qu'on avait du télétravail. Et donc ce télétravail était effectué grâce au matériel qui était mis à disposition par l'entreprise. Et on voit dans certains secteurs qu'il est impossible pour les collaborateurs qui n'étaient pas équipés en matériel pouvant permettre un télétravail quotidien. De pouvoir le mettre en place, parce que dans le secteur bancaire ou dans d'autres secteurs, il n'est pas possible simplement d'ouvrir un accès pour télétravailler via un ordinateur personnel, parce qu'on a des problèmes de cybersécurité, parce qu'on a des problèmes de data et de confidentialité, et ça pose effectivement des difficultés. On retrouve à avoir des postes qui, peut-être opérationnellement, auraient pu être réalisés en télétravail, sauf que le matériel et le temps surtout de réaction laissée aux entreprises, a été tellement réduit qu'il n'était pas possible parfois d'équiper des gens qui pourraient faire du télétravail avec le matériel nécessaire.
Après, ce qu'on a vu aussi en Chine, et je pense que c'est une des leçons intéressantes à prendre en compte, c'est l'isolement, le fait de ne pas se retrouver ensemble, mais aussi l'isolement dans d'autres pays, je pense notamment à des cadres expatriés qui ont choisi de partir et de retourner dans leur pays, notamment la France pour ce qui est des Français, a créé de grosses disruptions dans le management. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas forcément eu le temps de mettre en place les mesures de gouvernance, d'une part, et d'autre part, ils se sont retrouvés avec des décalages horaires. Et on voit aujourd'hui une conséquence directe pour les sociétés, et ça c'est intéressant, la Chambre de commerce luxembourgeoise, Bencham, a fait une étude qui montre que les décisions qui ont été prises depuis l'étranger ont été moins efficaces que les mesures prises localement. Ça pose à nouveau des questions d'organisation du management dans cette période-là. On a évidemment, comme vous, eu des questions de homeschooling. Donc ça, c'est une grosse question. Comment gérer le homeschooling alors que... il faut travailler en même temps. Dans certains cas, les familles chinoises sont structurées un peu spécialement parce que les grands-parents vivent souvent encore avec les couples, donc les grands-parents peuvent prendre le relais, mais ce n'est pas le cas en France, je crois.
Non, du tout. Et d'ailleurs, en France, ça s'est fait là aussi dans un laps de temps assez réduit. C'est-à-dire que la fermeture des écoles, des universités, des crèches a entraîné une réaction gouvernementale de créer une forme d'arrêt de travail. Jusqu'à présent, on a un arrêt de travail quand on est malade. Et bien, cette situation a permis, je puis dire, de créer cet arrêt de travail spécifique pour les parents d'enfants de moins de 16 ans, dont l'école est fermée, toutes les écoles sont fermées, de pouvoir solliciter leur employeur, ça aussi c'est une nouveauté, pour qu'ils puissent aller sur le site d'Améli, SPM, pour mettre ce salarié en arrêt de travail. En arrêt de travail avec simplement une demande d'attestation sur l'honneur que le conjoint n'est pas sollicité le même arrêt de travail. Donc on se retrouve dans une situation de salarié qui est en arrêt de travail, qui peut être qui est indemnisé sans délai de carence. Là aussi, on a eu de la souplesse. Et qui se combine aujourd'hui avec ce confinement total. C'est-à-dire qu'on va avoir un autre conjoint qui va se retrouver en télétravail avec son conjoint en arrêt de travail pour garder les enfants. Et cette situation de télétravail, parfois dans un contexte de mètre carré un peu réduit, là aussi, peut poser des problèmes d'efficacité. Mais en tout cas, la réponse qui a été donnée en France, c'est de dire « Ok, les écoles sont fermées, on va vous permettre de pouvoir garder vos enfants et de continuer à être indemnisé. » Ça règle la situation, effectivement, d'indemnisation pour les salariés pour un temps donné. Ça ne règle pas totalement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir continuer à avoir une activité et à pouvoir faire continuer à tourner l'économie.
Oui. Alors, c'est sûr que le télétravail ne sera qu'une... D'abord, c'est une nouvelle méthodologie de travail, effectivement, donc il faut s'y adapter. Tout le monde n'est pas prêt. Un des enseignements, c'est que on voit aujourd'hui l'évolution dans le temps. Et j'étais assez surpris en France de voir les gens croire que cette période d'isolement serait courte. Pour autant, on est un mois et demi après. Et un des enseignements, c'est justement que la crise dure, elle s'installera dans le temps. Un des thèmes à prendre en compte, c'est justement la reprise partielle du travail, comment faire revenir les salariés au bureau pour gérer ces craintes. On a eu beaucoup de difficultés à ce que les gens reviennent au travail après cette grande émotion, et on a dû mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des salariés au bureau, mettre en place des contrôles de fièvre d'abord à l'entrée des office buildings, mais aussi à l'entrée des bureaux. Et on a vu ce problème-là se filer très très vite. Lorsque le 10 février, les autorités ont laissé les gens reprendre et réouvrir, en réalité, beaucoup de salariés ont refusé de venir. Donc, je pense qu'il faut anticiper, effectivement, que des personnes vont demander démissionner ou exercer leur droit de retrait. Je ne sais pas comment ça va se passer en France. Est-ce qu'il y a des mesures là-dessus, Mohamed ?
Eh ben, on est un peu dans cette situation, même si... On n'est pas encore dans la reprise du travail fin de crise, mais on est dans une forme de reprise du travail. Pourquoi ? Parce que le discours du président de la République qui était de dire effectivement il faut se confiner, il faut arrêter les interactions, il faut de la distanciation sociale, ce qui a entraîné une réaction effectivement aussi de salariés qui veulent se protéger et qui ne veulent plus aller travailler. Or, on est aussi dans l'action inverse, de dire il faut que toutes les entreprises qui peuvent continuer à exercer les salariés, qui peuvent continuer à travailler, que ce soit en télétravail ou pour des postes qui ne seraient pas possibles en production, donc de faire du télétravail, de continuer à aller à travailler avec des mesures qui sont prises par les entreprises, des mesures de distanciation, des mesures d'hygiène et sécurité, qui vont permettre de continuer à exercer une activité professionnelle, parfois nécessaire hein, à l'économie du pays. Sauf qu'on se retrouve dans une situation de blocage. Une situation de blocage, pourquoi ? Parce qu'on a des entreprises qui ne sont pas visées par un arrêté qui a été pris pour fermer au public certains commerces. On se retrouve avec des entreprises où les salariés exercent de manière, j'allais dire, un peu violente en ce moment, de droit de retrait, ce qu'on peut comprendre. Sauf que dans certaines entreprises, on a mis en place les mesures. Et si on met en place les mesures, en principe, le droit de retrait n'est pas justifié. Pour le rappeler rapidement, le droit de retrait dans la législation en France, c'est je me retire d'une situation que je considère, que j'estime être un danger grave et imminent pour ma santé. Or, aujourd'hui, si on a mis en place toutes les mesures, on pourrait débattre de ce... de cette validité de droit de retrait, bien évidemment, pour les sociétés qui ont mis en place toutes les mesures de protection.
Oui. Alors là, effectivement, on est en plein dans les mesures de protection des salariés. Justement, il y a peut-être un parallèle intéressant à faire aussi sur ce sujet-là. On a eu des réglementations spéciales qui ont interdit aux entreprises de licencier les salariés dans plusieurs cas, notamment le cas où les autorités administratives demandent la fermeture administrative des sociétés. Alors là, je pense à certaines activités type, notamment pendant la période de vacances forcées, entre guillemets, mais aussi interdiction de licencier des salariés lorsqu'ils se sont retrouvés en quarantaine ou avec une interdiction de se déplacer sur le territoire, parce que certaines villes uniquement, hein, pas toute la Chine, mais certaines villes ou certaines provinces se sont retrouvées en isolement. Alors, est-ce qu'en France, vous avez une protection des salariés identique ? Et est-ce que tu vois quelque chose de particulier ?
Effectivement, le sujet est intéressant, parce que je crois, hein, si je ne me trompe pas, une espèce de fake news qui a circulé très rapidement en fin de semaine dernière, prétendue déclaration de la ministre du Travail, interdiction de licencier pendant le confinement. Bon, on s'est rendu compte très rapidement que c'est vraiment le cas, sauf que la solution qui est préconisée, et c'est le mot qu'on entend très souvent aujourd'hui, en dehors même des cercles d'initiés du droit du travail, c'est le chômage partiel. C'est l'activité partielle, exactement. Cette activité partielle qui est en train d'être toilettée en ce moment même, et toutes les entreprises sont en attente de savoir ce qu'il y aura dans ce projet de décret. Et en réalité, l'activité partielle, c'est une aide en France qui est donnée aux entreprises qui sont soit fermées, parce que visées par l'arrêté de fermeture et qui ne peuvent plus exercer leur activité, soit les entreprises qui sont touchées de plein fouet par cette crise et qui sont éligibles à l'activité partielle qui va permettre soit de diminuer la durée du travail hebdomadaire des salariés, c'est-à-dire je suis impacté mais d'une façon un peu non violente, pas de mot juste, mais je peux continuer à travailler mais je ne peux pas occuper à 100% mon staff, donc je peux demander une activité partielle pour mon staff de diminution d'horaire de travail et toutes les heures qui seraient chômées seraient indemnisées pour partie à l'entreprise. C'est-à-dire que je suis employeur, je maintiens 70%, alors c'est un peu dans le projet de décret aujourd'hui, c'est pas encore publié, le taux de prise en charge est encore faible, mais pour probablement... le projet de décret va instituer une indemnisation pour le salarié qui sera 70% de son salaire brut horaire, une indemnisation qui sera exonérée effectivement de cotisation à CGCRDS. Alors là aussi à voir, peut-être dans un chat et là des possibilités d'exonération aussi. Et l'employeur, lui, sera indemnisé par l'État pour partie et par pour l'emploi d'une quasi grosse partie de cette indemnisation, c'est-à-dire 70% de salaire brut, avec un plafond à équivalent de 4,5 SMIC en France.
Alors effectivement, vous avez la chance en France d'avoir le chômage partiel, c'est pas quelque chose qui existe en Chine. Pour l'anecdote, la difficulté financière liée à la crise n'est pas une cause de licenciement. Et le gouvernement incite les employeurs et les employés à négocier. Alors ça se passe pas dans un cadre collectif, ça suppose d'arriver à un accord individuel, ce qui veut dire que chaque employeur doit signer un amendement du contrat avec chaque employé. Bon, en réalité, socialement, ça se passe bien parce que beaucoup de salariés ont accepté une réduction de leur temps de travail, une réduction de leur salaire, parfois même jusqu'au salaire minimum imposé. Mais c'est vrai que le chômage partiel n'existe pas. Alors la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce que le gouvernement en France va accepter de financer du chômage partiel ? Et ensuite, quelle sera l'attitude du gouvernement vis-à-vis de sociétés qui, après avoir bénéficié de ces aides, vont licencier ? En tout cas, en Chine, on voit une vague de licenciements d'ores et déjà. Donc on est à 2 mois de crise et on voit d'ores et déjà des sociétés licencier assez massivement des salariés. Ça pose une question de savoir comment ça va se passer en France.
Oui, effectivement, et surtout, ça pose la question de. En France, on est dans un contexte actuel de flux d'informations sur ce système inconnu il y a 2 semaines, d'un flux d'informations parfois contradictoires. Les entreprises pensent effectivement que, parce que ça a été un peu la communication du ministre du Travail, de dire chômage partiel, activité partielle, on assouplit les règles sur pas mal de choses sans rentrer dans les détails, parfait jour. Qui n'est pas forcément visé dans de la diminution, mais simplement dans de la fermeture. Et là aussi, ça va être assoupli. Pas mal de règles qui vont être assouplies, mais attention, attention aux entreprises qui ne sont pas visées par l'arrêté et qui ne sont pas fermées. Attention aux entreprises qui peuvent continuer à exercer leur activité. Il y a des refus de prise en charge d'activité partielle. Des refus parce que le contexte est tel que beaucoup d'entreprises se sont précipitées pour effectivement faire des demandes de chômage partiel sans forcément argumenter les conditions d'éligibilité à chômage partiel. Donc il va y avoir un remboursement, une prise en charge par l'État qui va être importante en termes de financiers, mais attention aux entreprises qui ne sont pas forcément touchées ou touchées de plein fouet, qui risquent d'avoir un refus. Parce que les dossiers ne seraient pas forcément bien argumentés. Et comme l'information a été de dire aujourd'hui, mettez vos salariés en chômage partiel, puis faites une demande, vous avez 30 jours pour la faire, vous avez du temps pour faire votre demande, attention, là aussi, parce que la réponse pourrait être négative, et dans ce cas-là, il faudra maintenir le salaire à 100% sans aucune indemnisation.
Oui. Alors, un des tampons, à nouveau, des mesures qui a été aussi mise en œuvre, c'est de demander aux salariés de prendre leur congé payé pour le moment. L'activité est réduite, effectivement. Dans certains cas, donc dans les métiers de la distribution, on a vu des baisses d'activité jusqu'à moins 90%. L'automobile, moins 90% sur les ventes en février. Donc, ça a été effectivement très, très brutal. En réalité, les sociétés qui devaient, qui ne pouvaient pas licencier, ont demandé aux salariés de prendre leur congé payé. Est-ce qu'en France, toi, Mohamed, tu as vu des employeurs demander ça? Est-ce que c'est même possible?
Alors en France, on est là aussi dans une révolution du droit du travail. Bientôt, on va avoir une règle qui va être changée. Parce qu'aujourd'hui, imposer aux salariés de prendre ses congés, pas forcément possible. Ce qu'on peut faire en tant qu'employeur, c'est modifier la date de congé qui aurait été posée auparavant par un salarié. Un salarié qui n'a pas posé de congé aujourd'hui, à date, je dis bien parce que le projet de décret vraisemblablement est en train de changer cette règle, l'employeur ne pourra pas imposer des congés. Par contre, on a d'autres types de congés un peu spéciaux, des RTT pour les gens qui dépassent la durée du travail. Ces RTT, là aussi, il faut se référer aux accords d'entreprise, aux accords de branche qui les régissent, parce qu'une partie des RTT sont parfois et souvent laissées à la libre disposition de l'employeur. Et l'employeur, là, dans ce cas-là, pourrait imposer la prise des RTT. Sur les congés payés, ça n'a pas encore changé, mais dans le projet de décret, effectivement, il semble que la ministre prévoit une partie de congés payés qui pourront être imposés par l'employeur. Pourquoi ? Parce que là aussi, avant de demander l'activité partielle, et ce sera vraisemblablement vérifié, hein, il faut d'abord essayer de solder ce compteur de congés et essayer de mettre les gens en télétravail quand c'est possible. Et d'ailleurs, et il faut passer par la communication avec les salariés. Parce que être au chômage partiel, c'est pas avoir 100% de sa rémunération. Sauf si on est aussi. Donc, il vaut mieux poser des congés et avoir une rémunération à 100%.
Oui. Bien sûr. Un des gros aussi sujets qu'on a vu en Chine, c'est de suivre les aides d'État et d'engager très très vite des discussions avec les autorités locales qui attribuent ces aides. On a vu d'abord des aides municipalité par municipalité, puis province, puis une uniformisation de ces aides. Dans les aides, on a eu notamment des reports de charges sociales, des reports d'impôts, et puis on a vu aussi une demande de l'État que les entreprises qui sont des bailleurs exonèrent de loyer pendant 2 mois leurs locataires. Est-ce que je crois comprendre qu'en France, vous avez vu aussi ça Comment tu vois les
effectivement,
choses?
Effectivement, Bruno, en France, le ministre de l'économie a aussi réactivé des systèmes qui existaient hein, dans des situations de crise qu'on a eues aussi auparavant pendant la période des Gilets jaunes, pendant la grève des transports. C'était des systèmes qui existaient de report de charges. À ma connaissance, on n'est pas encore sur des dégrèvements de charges. Mais en tout cas, il y a un report de charges pour les entreprises, des possibilités de prêts via BPI France, et effectivement, beaucoup de mesures destinées directement aux entreprises pour pouvoir postponer, j'allais dire, les charges dues à l'État.
Ok, intéressant en tout cas de voir qu'il y avait déjà des textes et que c'était déjà quelque chose qui était prévu. Vous avez eu la chance de pouvoir mettre ça en œuvre. Ils n'ont pas de le voir se créer. Alors aussi, dans les nouvelles règles qu'on a vues, on a eu beaucoup de... Ça, c'est très spécifique à la Chine, c'est l'utilisation du crédit social pour forcer les employeurs et les employés à respecter certaines règles, notamment les personnes qui violent les réglementations liées à l'isolement peuvent se voir sanctionnées sur leur crédit social, ce qui peut par la suite... probablement avoir des conséquences très graves sur leur société lorsqu'elles ont des fonctions de représentation légale. Et aujourd'hui en France, est-ce que vous avez des mesures qui vous permettent d'abord de protéger des groupes de salariés? Je pense notamment à être dans une entreprise et savoir qu'on a des gens qui viennent, pourquoi pas, de régions dites dangereuses. Est-ce qu'on peut, quand on est employeur, refuser l'accès à l'entreprise en France? Comment peut-on protéger ses équipes ou se protéger soi-même?
Alors, effectivement, Bruno, aujourd'hui, les entreprises mettent en place des mesures, les sanctions, en réalité, sont difficiles à mettre en place comme dans un système à la chinoise. En France, les libertés sont importante et mettre un frein à ces libertés est très compliqué c'est surtout constitutionnellement protégé. Maintenant, les entreprises peuvent mettre en place des mesures. Dans la plupart des situations actuellement, à ce stade 3 de confinement, une grande partie, en tout cas des entreprises, ont des salariés en télétravail ou des salariés sur des sites où il est prévu des mesures spécifiques d'isolement. Et d'ailleurs, on a très peu de recul, parce que là, on a aussi des informations de sites au niveau local. On vient dire à l'entreprise, oui, mais avoir 100 personnes sur un site de production, bah, ça contrevient à ce qui a été mis en place. Donc, on est un peu... En fait, on n'a pas toutes les réponses, parce que effectivement, on a des dispositions et des dispositifs en droit social français, mais il y a des choses qui sont aussi en train de se créer par l'effet de la situation. Toutes les solutions ne sont pas encore mises en œuvre.
Oui.
Je crois qu'on a quelques questions et peut-être pas dans le bon déroulé de notre plan, mais revenir un peu sur le télétravail. Je vois effectivement personne qui précise que le télétravail ne peut pas durer plus de 15 jours, car ça génère un stress. Effectivement, c'est ce qu'on disait, le télétravail, c'est au-delà du télétravail, c'est l'isolement créé par ce télétravail qui peut créer un stress. Et c'est pour ça que, à ce stade, la solution, c'est pour les entreprises qui peuvent le faire, de mettre en place des hotlines de soutien psychologique, et surtout, d'aller dire, comme on l'a dit tout à l'heure, aux équipes de continuer à garder le lien. Pas parce qu'on est en télétravail qu'on ne peut pas faire de réunion, qu'on ne peut pas échanger, même sur les difficultés au quotidien. Le télétravail aujourd'hui, on est rentré dans une phase d'accélération télétravail, travail à domicile. Donc, pour que ça puisse fonctionner, l'aspect psychologique n'est effectivement pas à négliger.
Bien sûr. Je crois qu'on a eu d'autres questions aussi sur... comment faire lorsque les entreprises refusent le télétravail, alors que les équipes ont le matériel et ou des missions compatibles?
Alors, Là aussi, hein, ça va être géré au cas par cas. C'est-à-dire que si on est véritablement dans une situation où télétravail est possible et que le matériel est déjà mis à disposition et qu'on est dans le cadre de missions compatibles, on a vu la communication du gouvernement qui précise ce qui peut être fait en télétravail doit être fait en télétravail. Ça veut dire que derrière, attention pour ces entreprises, quand elles vont peut-être demander des aides, notamment peut-être dans de l'activité partielle, à se voir éventuellement refuser la prise en charge de l'activité partielle pour des postes qui seraient possibles, effectivement, de continuer à exercer en télétravail. Et je vois une question sur le délai. Alors, c'est vrai que l'activité partielle, c'est vraiment le sujet du moment. Quels délais sont indemnisés les employeurs? Là aussi, le projet de décret est en cours, mais selon ce que nous avons entendu, les entreprises vont être indemnisées sous 10 à 12 jours. Alors là aussi, en tenu du nombre de demandes, on aura effectivement revalider ce point-là à cas de l'étude des textes qui vont sortir probablement dans quelques jours.
En tout cas, ça, on voit que effectivement, les gens se posent pas mal de questions. On est dans une phase en France, je crois, de pure émotion. On a vu ça en Chine, beaucoup de peur à gérer, en fait. Et beaucoup de gens qui se sont tout simplement enfuis de Chine pour aller se réfugier dans d'autres pays. Et ça a posé beaucoup de questions aussi sur le droit du travail, en tout cas, sur que faire quand ces personnes n'ont pas voulu revenir. Et que faire aujourd'hui quand elles souhaitent revenir et qu'elles se retrouvent bloquées pendant des périodes de quarantaine imposées? Comment gérer ça au niveau de l'entreprise?
Alors effectivement, on a des situations d'expatriés qui sont revenus pour soit des vacances, soit parce qu'ils ont voulu, parce que ça a été le premier réflexe quand effectivement la crise a été déclenchée en Chine. Bon, on a eu l'occasion au cabinet de prodiguer quelques conseils pour, à destination des expatriés ou des salariés qui étaient détachés sur place, des bons réflexes à avoir, et notamment de proposer à ces expatriés de revenir en France s'ils le souhaitaient. Hein, l'imposer, c'est un peu difficile pour les détachés à l'arrière. Et là aussi, selon les dispositions aussi contractuelles qu'il peut y avoir à analyser, évidemment possible, ça a été le premier réflexe de les rapatrier. Maintenant, ils se retrouvent dans la situation, j'allais dire, un peu similaire, d'être en France aussi en état de confinement. Et donc, à ce stade aujourd'hui, j'allais dire, les expatriations, selon les zones, semblent un peu compliquées. Et il est compliqué, de toute façon, on peut imposer un retour et surtout à le déconseiller, hein, parce qu'il faut le rappeler, on n'a pas aujourd'hui d'obligation spécifique qui pèse sur l'employeur, mais d'obligation générale et prévention et de sécurité qui est plus que jamais d'actualité. Cette obligation générale de protection et de sécurité des salariés, elle a un sens large. Et on verra les conséquences de cette situation vraiment en amont de ce qui se passe aujourd'hui.
Alors tu parles.
Des questions sur le.
Ouais.
Sur comment gérer les CDD qui n'ont pas beaucoup de. Alors il faut le rappeler parce que la question pose parfois. Peuvent aussi bénéficier, c'est pas vraiment le mot juste, mais bénéficier de systèmes tels que le chômage partiel.
Alors, j'ai noté tout à l'heure, tu parlais de l'obligation de sécurité qui pèse sur les employeurs, et c'est vrai qu'on voit en Chine que les autorités ont vraiment mis la pression sur les employeurs pour assurer la sécurité des gens, notamment en sanctionnant très durement les entreprises qui imposait la reprise du travail alors qu'il y avait des périodes de congés ou d'isolement imposés. Donc ça a été très très clair. On a vu des sanctions pénales, on a vu des sanctions sur le corporate social, le crédit social des sociétés, donc de la perte de certains avantages, notamment fiscaux. Et je crois qu'en France, on est encore dans ces questions-là de savoir comment ça s'applique, cette responsabilité.
Effectivement, en France, les sanctions vont venir un peu a posteriori. Les premières sanctions, c'est effectivement un droit de retrait qui peut être justifié si on est dans une situation où, entre entreprise n'a pas mis en place, n'a pas pu, hein, parce que parfois c'est pas forcément possible, n'a pas pu mettre en place les mesures de prévention nécessaires. Et dans ce cas-là, on a un droit de retrait qui s'exerce par un salarié, qui peut être justifié un droit de retrait, c'est-à-dire que vous avez un salarié qui ne travaille pas et que vous devez indemniser. Vous devez indemniser comme une journée de travail normale. Et on aura a posteriori d'autres types de sanctions, c'est-à-dire attention au contentieux de fautes inexcusables qui vont sûrement occuper beaucoup les entreprises et les tribunaux en fin de crise. Parce que autant on pourrait avoir un débat sur si je contracte le coronavirus dans le cadre de l'activité, est-ce que ça peut être une maladie professionnelle ou pas? Je ne le pense pas, parce que effectivement, ce n'est pas une maladie professionnelle. Par contre, des contentieux en faute inexcusable pour des accidents qui auraient pu avoir lieu parce que l'entreprise n'a pas mis en place toutes les mesures, attention à ce type de contentieux qui peuvent effectivement aussi aller jusqu'au pénal.
Oui. Alors en parlant de ça, on a vu aussi une grosse pression mise sur les gens, notamment pendant les périodes d'isolement, des interdictions très strictes, des sanctions pénales pour ceux qui violent les périodes de quarantaine ou dans les villes où il y a eu des isolements très forts, on a vu des grosses sanctions sur les personnes aussi. Et on peut se demander en France si on n'aura pas, pourquoi pas, de la mise en œuvre de la mise en danger de la personne d'autrui. Il est clair que...
Tout à fait, exactement.
Il est clair que le civisme en Chine a été... le civisme et la peur, en fait, ont motivé les gens à mettre des masques, à rester chez eux. S'il n'y a pas eu de période d'isolement à Shanghai, par exemple, pour l'anecdote, il faut savoir que certaines personnes beaucoup de gens se sont mis en isolement d'eux-mêmes. Certaines personnes ne sont pas sorties de plus de 20 jours. Il y a eu beaucoup d'approvisionnement par le e-commerce. Donc ça a été un phénomène très, très fort. Il est vrai que le e-commerce en Chine et toute la logistique du e-commerce fonctionne très, très bien. Ça a permis effectivement de mieux supporter ces périodes d'isolement. Mais en tout cas, sur la responsabilité des personnes, on voit aussi une grosse pression. Est-ce que vous avez vu ça en France, ou est-ce que tu peux anticiper quelque chose là-dessus, pourquoi pas même du pénal, pour quelqu'un qui viendrait contaminer les gens?
Comme on disait, hein, la mise en danger des salariés, s'il est avéré, là aussi... qu'on soit vraiment dans des situations, j'allais dire, de non-respect total de toutes les guidelines qui ont été distillées par le gouvernement depuis le début de la crise. Et effectivement, on pourrait se retrouver à engager sa responsabilité. Dans le cadre de ce contexte, si on met en place les mesures, en principe, on ne devrait pas avoir trop de difficultés à démontrer que l'élément intentionnel ne peut pas. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oui, Lio.
Alors, il y a une question en ce moment. C'est vrai que les gens sont au télétravail ou confinés chez eux. Comment un employeur communique avec eux? Cette question, elle est peut-on informer le salarié par mail du télétravail, car normalement, il faut un courrier?
En réalité, le régime du télétravail a été largement assoupli depuis les ordonnances Macron, et effectivement, on a dit qu'on pouvait même se mettre d'accord sur du télétravail, et ça bien avant la crise, via un simple échange de SMS. Alors effectivement, nous les praticiens, on a quand même alerté en précisant qu'il fallait, dans un contexte normal, j'allais dire, un peu sur papier, si je puis dire, quelques règles pour éviter des incompréhensions. Mais effectivement, aujourd'hui, juridiquement, on pourrait simplement, par un simple échange de SMS, par un simple échange de mail, expliquer à son salarié qu'il est en télétravail.
Alors, peut-on faire une rupture conventionnelle durant la période de confinement?
Alors, la question se pose. Parce que pour faire une rupture conventionnelle, il faut en principe avoir organisé un entretien préalable, au moins un. Or, dans le cadre de la rupture conventionnelle, on n'est pas obligé de respecter les règles de l'entretien préalable, comme dans le cadre de la procédure de licenciement. Donc, techniquement, effectivement, il serait possible d'organiser même un entretien via Skype pour on va aller au bout de cette rupture conventionnelle. Est-ce que juridiquement, c'est effectivement faisable, hein. Maintenant, il faut signer le CERFA. Si on trouve des options, on envoie via la poste. Techniquement, c'est possible. Rien n'empêche, juridiquement, à ma connaissance, de une rupture conventionnelle.
Ok, en tout cas, moi, j'espère que la timeline est. De ce qu'on a vécu en Chine permet d'éclairer les entreprises en France et les entrepreneurs mais aussi les salariés de bien comprendre que c'est pas une crise qui va s'arrêter maintenant. En tout cas, bien avoir en tête que le timing peut être long et de s'inscrire dans la durée. Et de voir que.
En tout cas, pour finir effectivement sur un point positif, d'entendre que dans votre situation, vous êtes dans un cadre de reprise. Travail et que le confinement a marché, effectivement, ça peut un peu vous rassurer, nous ici en France, sur la durée de ce confinement, bien respectée par tout le monde, sera le plus court possible et qu'on se posera, j'espère, comme vous, les questions de reprise, en tout cas de retour à la vie normale des salariés.
Exactement, je crois que le mot d'ordre, c'est rester chez vous et écouter des webinars, notamment vous avez bientôt un prochain webinar sur. Sur d'autres sujets, je crois que vous pourriez en dire quelques mots.
Oui, merci Bruno. Mardi prochain à 15h, il y aura un webinar avec Cécilia Arandel, avocat associée de chez Fromont Briens, sur vraiment toutes ces questions sur l'activité partielle que vous êtes très très nombreux à vous poser. On sait qu'il y a aujourd'hui des choses qui ne sont pas déterminées totalement par le gouvernement. On espère que d'ici mardi, on aura de nombreuses réponses. Et en tout cas, sachez que toutes les questions que vous avez posées aujourd'hui seront partagées avec Cécilia pour qu'elle puisse répondre directement mardi à tout le monde.
Oui, tout à fait, Guillaume. On espère d'ailleurs que d'ici mardi, 15h, nous aurons le texte final du décret et que, effectivement, mon associée Cécilia vous présente de manière détaillée tous les méandres de ce système.
En tout cas, merci Guillaume d'avoir pu organiser et merci Mohamed d'avoir
partagé. Merci Guillaume, c'est un échange nécessaire à refaire.
À bientôt à tous.
Merci. Et à bientôt.
Merci à tous. À bientôt et bon confinement à tous. Restez chez vous.
Restez chez vous.
Restez chez vous.
Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ce podcast vous a plu. Pour en savoir plus, suivez-nous sur LinkedIn ou sur notre site www.lif-legal.com. À bientôt.